Et pensez-vous, vous pouvez, sans scrupule, occuper les sièges des conseillers municipaux habituels? Vous n'êtes pas des cloches, je vous en prie. Avancez. Vous avez des sièges de long et asseyez-vous au bord de la porte. Bien, mesdames et messieurs, déclarant conseiller municipal et moi-même, nous vous souhaitons une très cordiale bienvenue. Et nous sommes particulièrement d'accueillir aujourd'hui dans cette salle les cérémonies officielles des futurs époux Laetitia et Fabrice, qui ont choisi ce jour pour unir leur vie. Permettez-moi très rapidement, pour les gens qui viennent peut-être de votre région et d'assez loin, je crois, de retracer très vite l'histoire de notre petite ville, une Inde chef-lieu de 6300 habitants, et il faut le préciser, la seule ville française réellement sur le Rhin, puisque le Rhin constitue en fait la limite est du banc communal. C'est cette situation qui lui a d'ailleurs valu d'être distingué par Vauban, qui a décidé, sur ordre du roi Louis XIV, d'y construire une forteresse afin de verrouiller les passages de la Haute-Alsace. Cette forteresse a valu à la ville de Minimbre d'être devenue cité royale, qui explique la présence des trois lys royaux dans ces armoiries que vous voyez représentées sur ce vitrail avec un symbole de la forteresse. Cette forteresse s'est particulièrement illustrée sous la Révolution et sous le Premier Empire. Elle a soutenu trois sièges contre les armées autrichiennes et prussiennes. Le troisième, qui a été non pas le plus long ni le plus difficile, mais le plus connu, puisqu'il a été, disons, aujourd'hui on dirait médiatisé, par le fameux tableau des peintres de taille qui se trouve à la ville du Sénat et qui représente la sortie des deux enzobes de la garnison de Huningue le 27 août 1815 en présence de l'armée autrichienne et de l'archiduc Jean d'Autriche qui lui rend des honneurs militaires. Là, bien sûr, après 1815, la forteresse a été démantelée, surtout sur l'insistance de nos maintenant amis suisses qui, évidemment, avaient reçu quelques boulets par inadvertance. Et en fait, Huningue, évidemment, n'étant plus ville de garnison, a rentré dans une période assez dure et assez pénible de son histoire, reprenant un peu vie un peu avant la guerre de 70, et après 1870 étant devenue allemande comme tout le reste de l'Alsace, il y a eu les premières installations industrielles qui se sont développées entre les deux guerres, la Première Guerre mondiale ayant épargné Huningue, par contre la Deuxième Guerre mondiale, les combats de la libération novembre 1944 ont entraîné la destruction de la ville à près de 75%. C'est donc un gros effort de reconstruction qui a fallu être entreprendre, et c'est aussi un peu à cette époque qu'ont disparu, je dirais, les derniers vestiges des vieilles bâtisses de la forteresse et de l'histoire de l'Inde. À l'époque, on avait d'autres soucis que de restaurer les bâtiments anciens. Et donc, en fin 60, début 60, ont été créées deux zones industrielles, la zone sud et la zone nord. Ces deux zones industrielles se sont très rapidement développées, en accueillant notamment les filiales des trois grands de la chimie baloise de l'époque, Gailly, Siba et Sandoz. Et actuellement, Huningue, disons, a un tissu industriel très important, puisqu'il comporte les industries de la chimie, de la pharmacie, de la biotechnologie, de la transformation des plastiques et aussi un artisanat très actif. Voilà, bien sûr, ces activités ont apporté à la ville une prospérité appréciable, ce qui nous a permis de réaliser un certain nombre, disons, de bâtiments, de construire un certain nombre de bâtiments, de développer la ville. Je pense que les lycées publics connaissent maintenant la salle des sports, le triangle, le parc de Joville, la nef de la petite enfance qui rentrera en service en même temps. Ils vous la feront découvrir si vous avez l'occasion de rester plus longtemps. Mais en fait également, Huningue a très tôt affirmé sa vocation européenne en signant avec nos amis de Weil, en Rhein, juste de l'autre côté du Rhin, un serment de jumelage en 1962. Un nouveau serment de jumelage a été également conclu avec Souston, ce qui concrétise les liens d'amitié qui se sont tissés en 1939 et 1940, lorsque la population huningoise a été évacuée et a été accueillie dans les Landes. Voilà, et bien sûr, j'espère que vous avez tous remarqué, nous avons Huningue offre à ses visiteurs un accueil particulièrement fleuri. C'est vrai que nous faisons de gros efforts pour fleurir notre ville et pour, disons, rendre un peu le tissu urbain beaucoup plus accueillant. Ceci nous a valu d'ailleurs d'avoir quatre fleurs au concours des villages et villes fleuries de France, ce dont nous ne sommes pas peu fiers. Voilà, mais je ne voudrais pas abuser davantage de votre patience et je vous propose de commander la cérémonie. Tecla, s'il vous plaît.
Le 15 juillet 2006 à 15h, devant nous, ont comparu publiquement en la maison commune. Fabrice Jean-Pierre Burkhalter, informaticien, né à Strasbourg-Bas-Rhin, le 26 mai 1972, domicilié à Huningue, 7B rue Roget de Lille, fils de Raymond Robert Burkhalter, décédé, et de Marie-Louise Wurtz, sans profession, domicilié à Lingolsheim-Bas-Rhin, 10 rue Victor Hugo, d'une part. Et Laetitia Chaumette, ingénieure chimiste, née à Montbrison, Loire, le 4 mars 1976, domiciliée à Huningue, au Rhin, 7B rue Rouget de Lille, fille de Roger Chaumette, retraité, et de Chantal André-Jeanne Muron, vendeuse, domiciliée à Noirétable, Loire, 13 montée des Sorbiers, d'autre part.
Avez-vous signé un contrat de mariage ?
Oui. Sur notre interpellation, les futurs époux ont déclaré qu'un contrat de mariage a été reçu le 30 mai 2006, par maître Alain Wald, notaire associé à Huningue au Rhin.
Avant de vous poser la question prévue par la loi, laissez-moi vous donner lecture des articles du Code civil ayant rapport au mariage. Article 212. Les époux se croient mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux en charge du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Article 371. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient au père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Vous l'avez résumé un peu le sens de l'engagement que vous allez maintenant souscrire devant tout le monde. Nous approchons effectivement à l'heure au moment solennel de cette cérémonie, alors je vais donc demander aux jeunes époux et à tout assistant, venez au bord de ce lieu. Je vous demande, Monsieur Fabrice Jean-Pierre Burkhalter, consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Laetitia Chaumette, si présente ?
Oui.
Et vous, Mademoiselle Laetitia Chaumette, consentez-vous à prendre pour épouse Monsieur Fabrice Jean-Pierre Burkhalter, si présente ?
Oui.
Conformément à ces déclarations, et étant donné que toutes les formalités rédigées par la loi sont remplies, je vous déclare unis au nom du mariage, au palais bien du mariage.
Ils ont déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux et nous avons prononcé au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage. En présence de Céline Burkhalter, secrétaire, domiciliée à Metz, Moselle, de Myriam Rose-Marie Chaumette, épouse de l'Orme, enseignante, domiciliée à La Fouillouse, Loire, de Jean-François Muller, informaticien, domicilié à Mulhouse, au Rhin, et de Raphaël Marcel Chaumette, tourneur-fraiseur, domicilié à Mans, Lozère, témoin majeur. Lecture faite et invité à lire l'acte, les époux et les témoins ont signé avec nous Louis Bourgeois, adjoint au maire de Huningue, officier de l'État civil.
Nous allons maintenant procéder effectivement à la signature de tous les votes et
tirer
la
signature. Alors, il faudra signer au-dessus du trait les témoins.
Voilà. Je vous remercie. J'utilise l'image présidentielle de votre collègue, certainement, les deux, votre demain, les deux, qui sont en fait. Je vous remets également, maintenant, le nouveau formulaire. Je dis nouveau parce que je crois que vous êtes le premier couple à recevoir le nouveau formulaire. Bien, cher Laetitia, cher Pompé, cher... Chaque parent, chers amis, restez ici. l'engagement que vous venez de prendre aujourd'hui devant tous vos parents et tous vos amis, évidemment, est l'aboutissement de l'amour qui vous a rapproché et qui vous a unis. Mais c'est également, et je pense qu'on peut le dire, un acte de foi. Vous témoignez de votre foi, non seulement l'un envers l'autre, mais également de votre foi dans l'avenir qui s'ouvre devant vous et que vous avez choisi de construire ensemble. Aujourd'hui, vous allez être comblés par tous vos parents, amis, des jeunes, de bonheur, de joie, de prospérité, et ces vœux sont sincères, car ils témoignent également de l'amitié et de la fiction qu'ils vous portent. Bien sûr, vous savez que ces vœux n'ont pas d'effet magique et que vous serez quand même, vous, obligé de construire votre avenir petit à petit, en prenant les décisions des grands moments, en vivant tranquillement votre bonheur au quotidien, et également en vivant d'une façon intense les joies que toutes les grandes joies que pourront vous apporter la vie, comme nous souhaitons très nombreux. Évidemment, vivre les joies, les bonheurs, c'est bien, et nous souhaitons que cela vous soit épargné, mais vous pourrez peut-être un jour être confronté à des moments difficiles, à des moments pénibles. Et c'est peut-être dans ces moments-là qu'il faudra vous rappeler que vous êtes venu un jour ici, en mairie de Hunin, conduit par effectivement le sentiment très fort qui vous unit, et vous baser sur cet engagement, vous rappeler l'engagement, pour que vous puissiez l'un et ensemble affronter ces moments difficiles, et que l'un et l'autre trouvent le réconfort qu'ils attendent de chacun de vous. Voilà, je crois que je voudrais également m'adresser à vos parents, présents et absents, car je sais que les absents sont présents dans nos cœurs, bien entendu, et ils vivent aussi un très grand jour, finalement, avec beaucoup d'émotion, de joie et de bonheur, et peut-être avec un peu un sentiment, certaine mélancolie, car ils ont l'impression que cette fille, ce fils, cet enfant qu'ils ont élevé, qu'ils ont choyé, qu'ils ont aimé, et dont ils ont suivi tous les moments de la vie, s'éloigne un peu d'eux, se prend un peu de distance, mais je suis persuadé qu'au fond d'eux-mêmes, ils ressentent quand même une très grande joie, car ils vont accueillir là une nouvelle fille, là un nouveau fils, et je suis persuadé qu'ils sauront vous manifester leur tendresse, vous chérir et vous apporter leur soutien quand vous en aurez besoin. Il me reste bien sûr à vous présenter vos sincères félicitations, nos meilleurs vœux aussi de joie, de bonheur et de prospérité. Je vous souhaite à tous une très belle fête.
Merci.